Bonsoir Adicia, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain, les alternatives, la culture prenaient le pouvoir sur la finance, ce serait pas mal ça, Yann Valade. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'émission. Et si demain, que vous retrouvez tous les mardis en direct entre 17h et 18h sur Occitanie. Première, je remercie Jean-Louis Arzac-Fraisse à la réalisation, parce que sans réalisation, pas d'émission. Micro Christian Moreto, mais pas que. Je salue au passage notre ami Landy Sella, qui ne peut pas être là ce soir. Mais la semaine dernière, c'est lui qui m'a remplacé parce que j'étais sous la couette. Voilà, donc nous allons parler de la chapelle, mais non pas pour une prière, mais parce que l'avenir s'annonce bien. La chapelle, c'est un lieu culturel, un lieu de réflexion avec un atelier qui s'appelle L'Idéal, je crois, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Nous avons tout dit, ou presque, et nous aurons dans quelques instants aussi au téléphone Anne Greff, qui elle est réalisatrice, oui, tu peux l'appeler Jean-Loup. Et l'indicatif est signé de Damien Moreto. Et puis nous aurons quelques pauses en chansons avec Leïla Wissou et Lise Martin, deux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, qui seront là pour le festival des tours de chant. Voilà. Il y a peut-être la CAFPO, ils participent à des tours de chant, je crois que oui.
Oui, bien sûr. Nous accueillons Erwan Pinard notamment. La semaine prochaine.
D'accord. Puisque tu t'occupes de la chapelle, mais tu es aussi directeur et avant tout directeur de la cave Poésie à Toulouse.
Oui, mais je suis là aujourd'hui pour la chapelle.
Voilà. Bon. Et la semaine prochaine pour la cave Po. Puisqu'il va y avoir
peut-être,
aussi...
Voilà.
Comment peut-être ?
Non, mais oui. Je changerai de voix et de costume.
D'accord. Mais pour parler notamment de... Ce qui va se passer
le
14 février avec les lettres d'amour toute une journée, c'est merveilleux. Peut-être que le monde va changer à partir de
qui
dans
sait.
Le bon sens. Voilà. Alors nous avons au téléphone Anne Greff. Bonsoir.
Bonsoir.
Là, c'est loin. Alors on va voir parce que là nous faisons avec les portables, mais peut-être que là ça va. Vous m'entendez? Ah, vous ne m'entendez pas très bien. Alors, nous allons essayer de régler ça, parce que c'est vrai que c'est pas... Et là, vous m'entendez mieux ?
Oui, je vous entends beaucoup mieux.
Et nous aussi, nous vous entendons. Voilà, donc c'est que nous sommes sur la bonne longueur d'onde. Donc, vous êtes réalisatrice, vous avez réalisé notamment deux documentaires, l'un sur le Népal, entre autres, enfin deux et plus, sur la trace de vos amis suite au séisme de 2015 qui a été assez dramatique. Et puis vous avez aussi réalisé un documentaire sur la lutte du foyer Albert Thomas. Et ça, c'est à Tours, puisqu'il était menacé et il a été menacé de fermeture. Et c'est un centre d'hébergement d'urgence. Et j'ai vu que tout à fait au début d'ailleurs de votre documentaire, vous avez mis en exergue une phrase « avoir des étoiles plein les yeux ». Alors, c'est pas encore totalement le cas aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ces documentaires et comment vous en êtes venue, d'ailleurs, au métier de réalisatrice ?
Eh bien, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à réaliser ces documentaires ? En fait, c'est un peu la même raison que les raisons qui m'ont amené à devenir réalisatrice, c'est-à-dire essayer de trouver par les médias, de transmettre des choses inspirantes, des personnes qui se battent pour construire un monde meilleur, un monde où il y a un peu plus d'humanité, un monde qui, en tout cas des personnes qui ont des valeurs que j'apprécie, comme celles qui sont dans ces documentaires, donc qui vraiment n'attendent aucune aide pour essayer de construire quelque chose de mieux dans leur environnement. Là où ils sont, c'est ce qu'ils ont en commun à la fois à Tours et dans les personnes que j'ai suivies au Népal après les séismes. Donc c'est quand même deux cultures complètement différentes, deux contextes complètement différents. Mais on peut s'apercevoir que finalement, il y a quand même des dénominateurs communs. Et ce sont ces personnes-là que j'ai envie de mettre en avant en général pour à la fois redonner de l'espoir, montrer qu'il y a des gens qui se battent et qui arrivent à des résultats, parce que dans les deux documentaires, les personnes que j'ai suivies arrivent à des résultats probants et, à mon sens, encourageants. Et puis, ce sont des personnalités aussi qui, j'espère, donnent envie à ceux qui les regardent de se mettre eux-mêmes en mouvement.
Alors, il y a ces deux documentaires, mais est-ce que, parce qu'il faut quelque argent, à dire, pour les réaliser, pour les monter, pour après et pour la diffusion. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à tout ce travail qui n'est pas forcément évident? Et vous pouvez peut-être laisser aussi des coordonnées pour que les auditrices et auditeurs d'Occitanie Première qui seraient intéressés puissent aussi peut-être vous contacter ou vous aider dans le financement, que sais-je.
Oui, ben, c'est très aimable à vous d'y penser. Je n'avais même pas pensé à cette éventualité, mais j'ai un site internet qui s'appelle annegreff.com. Peut-être que vous pourrez le relayer sur votre site, parce que si je l'épelle, ça va être un petit peu long. Et sur ce site, il y a les différentes choses que j'ai pu réaliser en documentaire et hors documentaire. Et aussi, il y a une page contact qui permet de prendre contact avec moi. C'est en général le plus simple, parce que comme ça fonctionne par mail, et puis ensuite, on peut établir un contact plus approfondi. Et concernant le financement, là, effectivement, c'est la partie vraiment toujours très, très difficile parce que quand je suis rentrée avec les rushs du Népal, j'ai contacté plusieurs sociétés de production sur Paris pour proposer un documentaire sur lequel on serait reparti un an et demi plus tard pour pouvoir où en étaient ces personnes-là. Et j'ai trouvé des sociétés de production intéressées, mais... Vous avez pu remarquer que dans le documentaire, il y a 6 personnes que j'ai suivies pendant 4 mois. Et en fait, c'est très, très verrouillé hein, actuellement dans les chaînes. C'est très difficile de faire passer beaucoup de choses. Donc, on me demandait de retirer 3 des 6 personnages, en fait. On m'a dit que l'environnement, la personne qui se bat pour l'environnement, on m'a dit texto que c'était pas concernant. Voilà, ça peut pas intéresser les chaînes parce que c'est pas concernant l'environnement. Ça m'a laissé un peu perplexe aujourd'hui, en 2018, d'entendre ça. La personne transgenre qui se bat pour les droits LGBT et avec tous ses amis là-bas, j'ai eu la même réponse. On m'a dit que c'était pas, que ça n'allait pas intéresser assez, que les chaînes avaient trop peur, étaient trop frileuses. Bon, il y a eu beaucoup de sujets, en fait, hein, depuis 2015 sur la question transgenre. Mais bon, au final, en fait, c'est très difficile de réussir à faire passer ce genre de projet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai tourné à mes frais et ensuite, j'ai fait d'autres petites commandes, notamment de travaux de montage, puisque je travaille aussi pour des ONG. Donc, j'ai des choses plus alimentaires, on va dire, en parallèle. Et actuellement, là, je suis sur un nouveau projet sur lequel j'ai rencontré la semaine dernière une société de production. Et là, j'aimerais trouver une production en amont pour réaliser les choses dans l'ordre normal. Et ce qui ne peut se faire que si la production trouve elle-même une chaîne de télévision avant qu'on tourne, en fait. Donc, la partie financement est toujours très compliquée hein, sur les documentaires.
Donc, c'est pas le plus facile que vous avez choisi. Enfin, ceci dit, pour les fictions, c'est aussi, c'est pas forcément gagné d'avance, même s'il y a des aides. Mais c'est vrai que souvent, un certain nombre, en tous les cas, de documentaires, de reportages qui passent en télévision sont quelque peu formatés.
Oui, ça, c'est moi qu'on puisse dire. À mes yeux, en tout cas. Des séries quand même des documentaires aussi assez intéressants mais qui sont sur une forme plus américaine globalement mais qui en tout cas moi je trouve quand même très intéressante sur les sujets qui sont mis en avant et qu'on a beaucoup de mal à placer sur des chaînes françaises. Et puis il y a une plateforme qui s'appelle Universiné qui regroupe des labels indépendants et j'ai aucun lien avec eux, mais je suis abonnée à cette plateforme et il y a une formidable offre de films indépendants et de documentaires pour 3,90€, des choses qui sont sorties en salle, hein, mais des choses qui sont produites normalement, qui circulent dans les festivals au niveau international et qui passent aussi en télé. Mais il y a et ça c'est une nouvelle offre, 3,99€ par mois, je trouve que c'est quand même pour offrir une telle diversité de documentaires. beaucoup aider le financement des documentaires, mais ça permet de réattirer l'attention toujours de nouveaux spectateurs sur ce format. Et pour moi, le documentaire, c'est vraiment quelque chose à défendre, parce que contrairement à ce qui se passe en ce moment sur le net ou dans les JT, c'est le moyen, c'est ce qui permet de prendre le temps de décortiquer vraiment de l'information, d'aller au fond des choses. Sur Albert Thomas, j'ai passé 3 mois en immersion, 7 jours sur 7 en tournage avec les migrants qui étaient dans ce foyer. Et sur le Népal, 4 mois. 4 mois, 7 jours sur 7 en immersion avec les 6 personnes que j'ai suivies. Donc c'est sûr que ça permet de faire un travail de fond, le documentaire, qui est très différent de l'information très formatée qui traite la surface de l'iceberg que l'on peut avoir sur les médias très courus en ce moment.
Alors, il y aura peut-être une ouverture pour vous, puisqu'il y a un nouveau média et qui s'appelle justement Le Média, et qui est notamment, c'est une partie de l'équipe qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, qui souhaitait apporter une autre information.
Oui, j'ai entendu parler de ça, je ne peux pas vous en faire de commentaire, parce que je n'ai pas encore été voir plus profondément de quoi il s'agit, mais j'en ai entendu parler, oui.
Ils étaient les invités, en tous les cas, dont n'est pas couché sur France 2. Samedi dernier, donc, vous pouvez retrouver peut-être sans doute le podcast de l'émission où ils en parlaient, mais c'est en train de... C'est une nouvelle chaîne de télévision sur le web qui est en train d'être créée. Donc c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Mais bon, après, je ne sais pas ce qu'il est. Mais visiblement, ils ont réussi quand même à récolter suffisamment de fonds pour pouvoir démarrer et faire déjà de bonnes émissions. Voilà. Mais après, bien sûr.
C'est bien. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait des nouvelles formes de médias qui apparaissent. Il y en a beaucoup qui sont apparus. Après, il y a eu beaucoup de problèmes de modèle économique à trouver pour le net. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça reste quelquefois un peu trop confidentiel parce qu'il n'y a pas les moyens pour les promouvoir comme les gros médias, mais en même temps, il y a quand même de plus en plus de demandes pour les podcasts, pour les médias en ligne, pour des offres alternatives, on va dire.
Et oui, c'est tout le problème, puisqu'il faut effectivement des financements et que ce, sans doute pas M. Bolloré, ni la famille Dassault, ni Bouygues qui financeront peut-être ce type de médias, malheureusement. Et c'est ça aussi. Et nous, avec nos petits moyens Occitanie Première, nous essayons aussi d'apporter un autre regard, une autre culture, une autre information. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs d'Occitanie Première pour cette première en ce qui vous concerne sur notre antenne ?
Eh bien, de soutenir leurs médias indépendants, ça me semble très important, de continuer à les écouter, qu'ils s'abonnent à votre page Facebook, qu'ils soutiennent aussi le cinéma indépendant et qu'ils le relaient aussi sur les médias sociaux, c'est très important parce qu'en fait, souvent... on n'a pas les moyens sur ce type de format et de financement, évidemment, on n'a pas les moyens publicitaires de faire connaître notre travail. On ne peut pas acheter des affiches, des pages dans les journaux, ou même la publicité Facebook coûte assez cher pour vraiment que ça ait un impact. Donc après, quand les citoyens peuvent relayer par eux-mêmes, comme beaucoup le font déjà, c'est sûr que ça... C'est le formidable soutien qui se met en route et voilà, s'ils apprécient, qu'ils partagent. Et donc, les deux documentaires, ils sont sur YouTube. Donc, ils peuvent aller les regarder sur YouTube, la lutte du foyer Albert Thomas. Et le documentaire sur le Népal, c'est sur les traces de Népalais inspirants. Donc, je pense que il y a matière à réflexion, à mon avis, en les regardant. Et j'espère que les gens, vos auditeurs, j'espère qu'ils seront intéressés d'aller les regarder. Les personnes qui les ont déjà vus, en tout cas, j'ai eu des échos voilà, qui témoignaient de quelque chose d'inspirant. C'est ce que je voulais faire passer. Donc, j'espère que ça pourra servir d'exemple, parce qu'en fait, ce n'est pas une question de dans quel pays on se trouve ou au Népal. Ils avaient énormément d'obstacles pour mettre en place tout ce qu'ils ont mis, que ce soit dans l'environnement. Il y a une personne qui s'occupe d'enfants des rues, une personne qui est sur le secteur de la santé, une personne sur les droits LGBT, une personne sur l'environnement qui sensibilisait les Népalais par rapport au problème des déchets qui est phénoménal au Népal et qui apporte beaucoup de problèmes, puisque avec l'hygiène, il y a ensuite les problèmes de santé, les problèmes sanitaires, les problèmes de rats ou de cafards qui sont attirés par tout ça. Donc il y a un énorme travail à faire. C'est des gens qui remuent vraiment des montagnes, on peut dire, au pays de l'Himalaya, qui vraiment remuent des montagnes et qui sont formidables, quoi. Moi, je trouve qu'en France, on se plaint beaucoup quand on voit des gens comme ça. Même ceux à Albert Thomas qui se sont battus, c'est pareil. Sont vraiment des citoyens qui sans moyens financiers, sans aide de personne, se décident à faire changer les choses là où ils sont, dans l'ombre. Pour moi, c'est l'avenir.
D'accord, bien merci Anne Greff. Donc Greff, ça s'écrit G-R-E-2-F-E, si vous voulez, si les auditrices et auditeurs d'Occitanie Première et de l'émission Ici Demain veulent en savoir plus. Merci d'avoir participé à cette émission en direct.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Et donc, nous sommes maintenant dans le studio donc avec Yann Valade qui va nous parler incessamment sous peu de la chapelle. Mais je voudrais signaler, puisque nous avons nous aussi une coopération avec nos amis de l'American Cosmograph, notamment pour l'émission Traversée, que vous retrouvez en direct aussi le vendredi matin entre 10h et midi, et qui a été rediffusée tout à l'heure entre 15h et 17h, et bien ce soir, mardi 23 janvier, il reste peut-être encore quelques places pour le film L'insulte de Ziad Douyeri, qui sera là donc pour présenter un très bon film qui a obtenu un prix au Festival de Venise 2017, prix d'interprétation masculine. C'est un film à voir. Et puis il y en a un autre aussi, et lui ce sera pour une avant-première aussi, le jeudi 25 janvier à 20h30, toujours à l'American Cosmograph, et ça s'appelle Centaure. Voilà, nous avons tout dit, ou presque, non, pas encore, mais nous avons aussi des artistes. Nous espérons les recevoir vendredi matin en direct et en studio. Et nous allons commencer par écouter Leila Wissou qui affiche complet jeudi et vendredi prochain au Bijou. Et donc, elle va se produire dans le cadre du festival des Tours de Chant. À tout de suite.
Le temps de partir sans avoir personne où aller. Je sais pas quoi construire, mais pas d'envie, c'est pas de regret. Voilà le temps de vomir sur cet amas de gueules en biais à qui je sais plus quoi sourire, à qui je sais plus quoi causer. On en a bien parlé de l'époque de ces enfants qui savent plus aimer, mais comme faut bien vider les stocks, la logistique fait des bébés. La nièce voudrait pas virer conne, ça tient un peu de subtilité. Il paraît qu'à trop croire en l'homme, y en a quelques-unes qui se font baiser. Prends tes carnets puis deviens tout ce que t'as jamais supporté. Écris l'angoisse et le chagrin. Personne ne meurt sans se vider. On s'est dit, faut partir de rien et puis se faire tout seul avec du vide plein les mains. Tu l'imagines, ma petite gueule, le sourire paumé en chemin, parce que ça plaît plus à personne quand la gosse se change en chien et que le chien grogne. On en a bien parlé de la foi, celle qu'on met là où on peut. Mais quand y'a de la place pour une croix, y'a des chances que ça sonne creux. Ta guitare, ton amour, c'est ta musique. Moi je vous dis que c'est mon désespoir, une vieille fille alcoolique qui demande à me voir tous les soirs, à m'inspecter les tripes. Elle prend ce qu'elle veut et elle se marre à le traîner en public. Ça devait être de ces chansons où le bout d'espoir se pointe à la fin, qui vous laisse pas sauter du pont sans un nanny coussin.
Toujours à l'écoute de l'émission Et si demain ? Et si demain la créativité ? Et si demain la réflexion ? Et si demain, même l'amour d'ailleurs, l'emporter sur la finance, le capitalisme et tout ça, ce serait pas mal, Yann Valad.
Oui.
Hein ?
Oui, oui, beau programme.
Alors, que se passe-t-il ? Il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, mais ça permet comme ça d'avoir le yin et le yang. La chapelle, c'est un lieu culturel, un lieu de réflexion qui existe depuis à peu près 25 ans.
C'est ça, 25 ans cette année.
Et dont il y a eu quand même une avancée, puisque c'est pas vieux, hein, ça date de vendredi dernier. Il y a eu une signature, en tous les cas, une convention entre la mairie de Toulouse et les créatifs de la chapelle.
Oui, en fait, on a signé un bail emphytéotique, donc c'est plus qu'une convention, hein, c'est un bail sur 40 ans qui nous donne les droits et les devoirs d'un propriétaire. Et en même temps, on a signé une promesse de vente pendant 5 ans qui fixe le prix de la chapelle pendant 5 ans à hauteur de 100 000 euros. Ça a été une longue bataille, commencée en 2009, lorsque la mairie de Pierre Cohen a décidé de racheter le lieu. Pour mémoire, la chapelle appartenait à l'archevêché qui faisait de la spéculation immobilière sur le lieu, qui le laissait en fait s'écrouler pour ne plus pouvoir y faire le culte et donc pouvoir le vendre. Et en 93, une association Planète en danger a proposé à l'archevêché un projet culturel sur cet espace. L'archevêché a prétexté que le lieu n'était plus viable. L'association s'est rendue sur place, a fait quelques expertises, s'est rendue compte que non, il était encore possible de le réparer. Et en fait, Planète en danger à l'époque a compris que l'archevêché n'avait pas du tout l'intention de faire vivre ce lieu, mais plutôt de le vendre. Et comme Planète en danger travaillait notamment sur la spéculation immobilière, la gentrification, l'association a fait le choix de prendre illégalement le lieu le 4 juillet 1993. S'en est suivi beaucoup d'histoires, beaucoup de batailles, dont une en 2006 qui nous avait déjà opposé à Jean-Luc Moudenc, qui, avec l'aide de Françoise de Vérinas, avec l'aide de l'archevêché et d'une association qui s'appelle toujours malheureusement Habitat Humanisme, ils avaient monté ensemble un projet immobilier sur le lieu où l'archevêché vendait à Habitat Humanisme la chapelle pour pouvoir construire des logements sociaux. Et Françoise de Vérinas avait eu à l'époque des mots très pleins de fiel et de manipulation pour opposer finalement des squatteurs à d'autres squatteurs en disant mais au SDF qui était à la rue à l'époque, mais nous on aimerait bien vous loger, mais il y a des gens qui occupent des lieux, ils font juste de la culture et voilà. Donc ça c'était en 2006, ça avait duré un an et demi, puis Pierre Cohen est arrivé au pouvoir et là l'archevêché a réussi son coup. Il a finalement réussi à vendre le lieu. Ça s'est passé à l'été 2009. Ils ont trouvé un acheteur. Alors on n'a pas réussi à savoir au final qui était ce fameux acheteur. Et pour vendre un bien, ben on dépose une déclaration d'aliéné, déclaration d'intention d'aliéné, une DIA, auprès de la mairie, qui a été déposée donc début juillet. Et cette déclaration, elle permet à la mairie de faire préemption, et la mairie a 2 mois. Donc l'été est passé, et quand les services municipaux se sont rendus compte de la chose, c'était à quelques jours de la fin de cette DIA. Et donc, dans l'urgence, à l'époque, c'est Nicole Belloubet, aujourd'hui ministre de la Justice, qui a débarqué à la chapelle avec Éric Fourreau, à l'époque, qui était conseiller culture, pour nous demander ce qu'on souhaitait faire. Nous informer que le lieu, voilà, qu'il y avait une vente en cours et qui était vraiment, cette fois, très, très engagé. Qu'est-ce qu'on souhaitait faire? Et nous, on les a renvoyés dans leur responsabilité en disant, mais vous faites ce que vous voulez, nous, on s'en fout. Évidemment, la mairie ne pouvait pas ne pas faire préemption, parce que 17 ans de mairie de droite, le lieu résiste, 2 ans de mairie de gauche et le lieu est vendu, ça aurait fait mauvais sur la photo, quoi. Donc ils ont décidé d'acheter 200 000 euros. Et ensuite, on a passé tout le mandat de Pierre Cohen à négocier avec eux pour qu'ils nous le donnent ou qu'ils nous le vendent ou qu'ils nous fassent un bail emphytéotique. Et on est arrivé à rien. Et malheureusement pour lui, bah c'est Jean-Luc Moudin qui ramasse la mise, en pouvant faire une opération de com sur son dos, sur notre dos, enfin bon, voilà quoi. Et donc, il a perdu les élections et les services municipaux ont continué à travailler avec nous, à négocier avec nous. Alors, bon, il voulait nous vendre le lieu 230 000 euros, sachant qu'il l'avait acheté 200 000 euros. Bon, certes, il y avait des frais de notaire, des choses comme ça, mais bon, déjà, on voit l'esprit. Nous, on leur a dit qu'on leur achetait 82 000 euros, en argumentant, en expliquant qu'on avait des travaux, qu'on était à lieu d'intérêt général, qu'on leur avait évité pendant des années de payer des subventions à plein d'associations qu'on a accueillies. Et là-dessus, ils nous ont envoyé une lettre, alors c'était quand? C'était en septembre, je crois, l'année dernière. Cette année, peut-être? Ou non, l'année enfin,
en
dernière.
2017.
L'année 2016.
2016.
2016, ils nous ont envoyé une lettre en disant en fait, on s'est trompé, c'est pas 230 000 euros qu'on vous vend le lieu, en fait, c'est 330 000 euros. Oui, vous comprenez, en fait, l'avis des domaines, puisque le lieu appartenant à la mairie, il fallait que, voilà, il y a un avis des domaines qui donne le prix. C'était 230 000 euros, mais si le lieu est vide, si le lieu est occupé. Or, comme on le vend à vous et que c'est vous-même les occupants, on peut considérer que le lieu est vide. Et là, c'est 330 000 euros. Donc. Voilà, ça a été une suite comme ça de haut et de bas. Finalement, ils nous ont dit, bon, allez, on veut bien vous le lâcher à 150 000. Non, 135 000. Et nous, on leur a dit, bon, ben, on coupe la poire en deux, 82, 135, on vous le prend à 100 000. Et ils ont dit banco. Parce qu'ils avaient envie de s'en séparer, parce que on leur apportait une solution, sur un plateau. Au final, depuis 25 ans, le lieu vit sans aucune subvention. C'est uniquement des bénévoles qui s'en occupent, des bénévoles militants. Donc, pour eux, c'est une très bonne opération. Non seulement ils se ramassent de l'argent, mais en plus de ça, ils peuvent communiquer en disant « Grâce à nous, le squat de la chapelle est pérennisé. » Plus un bon timing avec Macron qui arrête Notre-Dame-des-Landes. C'est... Donc voilà, voilà l'histoire de ce lieu un peu particulier.
Ouais. et un lieu où, effectivement, il y a plein d'idées qui germent. Tu as parlé de Planète en danger, sauf erreur de ma part. À une époque, un des grands animateurs était Marc Lefebvre.
Oui, bien sûr. Marc Lefebvre, Nathalie Fourcade, Marc Ateya, Nel Cozel. Ouais. Beaucoup de... oui, c'est... Le Planète en danger a agi sur le lieu jusqu'à la ville habitée, ce qu'on a appelé un gros événement qui a eu lieu en 95. Et puis, suite à la ville habitée, il y a une association qui a germé, qui a choisi de s'appeler l'Atelier Idéal. En fait, quand le lieu a été pris, en nettoyant le lieu, parmi les gravats, il y avait des cahiers d'un poète qui s'appelait Jerry Wolff. Et en recherchant un peu qui était ce gars-là, Planète en danger a découvert en fait qu'il était mort sur le lieu quelques mois avant de le prendre, donc en février 93, et qu'il était assez connu du milieu poétique, culturel toulousain. Il fréquentait la CAFPO, c'était un ami de Serge Pey, de René Gouzen, Bruno Ruiz. Et parmi ces cahiers... Jerry Wolff écrit que l'église, la chapelle, c'est l'atelier idéal. Et donc, à l'époque, Planète en danger a récupéré cette phrase-là, cet atelier idéal, pour en faire le nom de l'association qui, depuis, officie sur le lieu et s'en occupe. Et voilà, depuis, beaucoup de gens sont passés sur le lieu, beaucoup d'initiatives ont été prises et... c'est vraiment pour nous un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle. Voilà, c'est vraiment un espace des possibles, et ce qui est très rare aujourd'hui à Toulouse.
C'est un espace des possibles qui fait aussi largement sa part et plusieurs parts peut-être du colibri, comme le dirait Pierre Rabhi. D'autre part, sachant que la chapelle, c'est rue Casanova, et elle n'est vraiment pas très très loin du siège du conseil départemental.
Oui, alors bon, c'est le siège départemental...
C'est une grande bâtisse par rapport.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, en l'occurrence... Le département, il y a 2 ans, a choisi de couper les fonds pour l'accueil des jeunes mineurs isolés, réfugiés. La chapelle a servi à l'époque de base arrière pour les manifestants qui avaient installé un campement devant le conseil départemental et qui n'a pas... remis les fonds comme il fallait le faire, qui ne fait pas son travail d'accueil comme il devrait le faire. Et on se retrouve aujourd'hui à la chapelle à travailler avec le collectif Autonomie, que vous pourriez recevoir d'ailleurs, parce que pour le coup, et si demain, eux, ils inventent vraiment une autre façon de faire avec ces jeunes mineurs isolés, des mijeurs, comme ils disent à la fois, on ne sait pas s'ils sont majeurs ou mineurs, enfin bon, c'est assez complexe. Et les services du conseil départemental n'ont pas honte, lorsqu'ils ferment, d'envoyer ces jeunes à la chapelle en leur disant « Mais allez là, il y a un espace pour vous accueillir », comme si nous devions pallier aux incuries à l'incurie du département. Donc, effectivement, la chapelle se trouve à côté du siège départemental. Voilà.
Et oui, ouais, c'est une belle histoire. Je crois que d'ailleurs, il y a un journaliste qui était passé vous voir à un moment donné ou qui a publié. Je sais que je l'avais reçu sur une autre chaîne radiophonique et qui avait essayé de voir justement un petit peu toutes les alternatives. Et je ne me rappelle plus de son nom et c'était un bouquin qui était paru au Seuil. En tous les cas, il citait l'atelier idéal.
Oui, parce que en fait, la chapelle, on pense en fait que c'est le plus vieux squat politique de France, enfin on n'est plus un squat aujourd'hui, mais encore en vivant. Il y a des squats artistiques depuis les années 80, notamment à Lyon, qui sont toujours debout. Mais un squat purement politique, puisque la particularité de la chapelle, c'est ça, c'est que, encore une fois, lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle, Myris vient après. On n'est pas du tout une friche artistique. On est alors ce qui est drôle, c'est qu'on ne rentre dans aucune des cases des analystes qui travaillent aujourd'hui sur les squats. On n'est pas une friche artistique, on n'est pas un lieu de logement. On est un lieu d'expérimentation, de rencontres, où plein de choses sont une autre façon de vivre est possible et à inventer au quotidien. Donc voilà, on essaye beaucoup de lutter contre l'entre-soi, parce que finalement c'est de ça que pâtissent beaucoup de lieux comme les nôtres, où finalement on retrouve une frange de la population qui est un peu alternative, de gauche, bon voilà. Et depuis le début, La Chapelle essaye de proposer cet espace à tous et à toutes. Ce qui fait que on a réussi à certains moments, alors pas tout le temps, mais dans les plus grands moments du lieu, d'avoir à la fois des SDF, des réfugiés, des étudiants étrangers, des ingénieurs d'Airbus, des instits, et puis la vieille mamie avec sa fourrure et son chien. Vraiment, d'ouvrir le panel. Et de créer des rencontres qui, après, ont dépassé complètement le lieu, qui se vivent aujourd'hui indépendamment de La Chapelle. Mais c'est vraiment ça qui est important sur le lieu. Mmh. Voilà.
Donc, une belle histoire à poursuivre, qui n'est jamais totalement et tout à fait simple, mais il y a aussi de belles histoires à travers la chanson. Et j'ai envie de vous faire écouter Lise Martin, qui, elle aussi, va se produire, ce sera fin août, je crois, fin janvier, 30 et 31 janvier, toujours chez nos amis aussi du Bijou. Et Lise Martin, elle chante une très belle chanson, enfin, elle a une très belle écriture, une voix qui porte aussi. Et là, c'est « Il neige ». Alors, « Il neige pas sur Toulouse », mais c'est une très belle chanson.
Piège. Il neige et les flocons dansent. Je me laisse prendre à leur manège et je danse avec eux dans l'air froid du vent. Je m'allège. Il neige des petites plumes de rien qui tombent sur mes mains, diamants venus d'en haut. Qui roule sur ma peau, pleurant à ma place, des larmes de glace qui roulent sur mes joues, se glissent dans mon cou et s'écoulent en rivière, transparence de verre. Il neige sur ce monde endormi, commence une autre vie si sereine, dans la douceur de l'air. De ce matin d'hiver, je suis reine. Il neige, je me laisse aller aux rêves insensés qui m'assiègent. Je me laisse emporter, me transforme en flocon de neige. Il neige, petites plumes de rien qui tombent sur mes mains, diamants venus d'en haut qui roulent sur ma peau, pleurant à ma place, des larmes de glace qui roulent sur mes joues, se glissent dans mon cou et s'écoulent en rivière, transparence de verre. De verre. Il neige, il neige, il neige, il neige, il neige.
Alors, il ne neige pas sur Toulouse, mais c'est une très belle chanson, Lise Martin, qui sera donc au Bijou les 30 et 31 janvier. Et puis à la CAFPO le lendemain, il y a Bicéphale aussi, Boule et Monsieur Roux. Donc ça, c'est à 20h30. Et je suppose qu'il reste encore des places, Yann. Oui, tout à fait. Après, tu te remettras le micro dans le bon sens. Voilà. Pour les questions suivantes, tu as un bouquin que j'ai envie de vous conseiller, pour, mais c'est pour faire aussi de la bonne cuisine à la chapelle, puisque ça s'appelle « Je cuisine les restes et je fais des économies ». C'est de Céline Ménetrier et Aurélie Jeannette, et c'est publié chez Terre Vivante, qui est un très bon éditeur, qui est une scope hein, d'ailleurs. Alors Céline Ménetier est auteure et créatrice aussi culinaire. Elle anime notamment le blog Artichauts et cerises noires, où elle partage une cuisine du quotidien, simple et familiale, saine et gourmande. Quant à Aurélie Jeannette, elle est photographe. Elle a aussi exercé le métier de chef culinaire. Aujourd'hui, elle allie ses deux passions en tant que photographe culinaire. Donc c'est « Je cuisine les restes ». Et je fais des économies, mais dans l'émission Traversée du vendredi matin entre 10h et midi, nous l'aurons sans doute au téléphone. En tous les cas, Céline Ménetrier. Donc je cuisine les restes et je fais des économies aux éditions Terre Vivante. Alors, à la chapelle, à une époque où il y avait tous les lundis soirs, enfin des soirées avec plein de monde. Alors, il y a encore, bien sûr, notamment, il y avait Lambert, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'est produit, qui avait des spectacles
oui,
sur, hein, sur vraiment ce qui se passe de nos jours, notamment sur le nucléaire, mais pas que. Et donc, comment peut-on se procurer, par exemple, la programmation, s'il y a programmation à la chapelle ?
Le plus simple, c'est d'aller sur le site du lieu atelieridéal.lotre.net. C'est là qu'il y aura toutes les infos.
Et si mes souvenirs sont exacts, et je pense qu'ils le sont encore, je n'ai pas perdu totalement la mémoire, pour la chapelle et pour qu'elle puisse continuer et vivre et perdurer, il y avait eu tout récemment un appel à financement.
Oui, effectivement, racheter 100 000 euros le lieu à la mairie et faire les travaux de mise aux normes qui sont nécessaires, évidemment, c'est pas simple. D'autant que le lieu refuse de demander des subventions aux institutions pour être vraiment autonome, ne dépendre de personne. Donc on a lancé effectivement un appel aux dons. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 35 000 euros. Ces premiers 35 000 euros vont nous servir à faire les travaux qui vont permettre l'accès handicapé, qui vont permettre de mettre aux normes au niveau électrique, quelques obligations que nous avons aujourd'hui en tant que propriétaire, hein, les droits mais aussi les devoirs d'un propriétaire. Donc voilà, la mise aux normes passe par là. Donc, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui veulent soutenir ce lieu, ben, votre soutien financier est vraiment le bienvenu. Vous pouvez trouver sur notre site l'adresse du lieu si vous voulez envoyer des chèques ou une cagnotte que vous pouvez faire augmenter avec des dons par carte bleue. Vraiment l'atelier idéal, enfin la chapelle, quand on dit que c'est un lieu des possibles, c'est vraiment
pas loin du micro s'il te plaît, pardon.
Oui, pardon. C'est vraiment on a l'habitude de dire que le lieu sera ce que nous en ferons. Et donc s'il y a des bénévoles motivés pour venir aider, militer et s'occuper de lieu, alors le lieu sera beau et fort et voilà. Il faut vraiment que les auditeurs, les auditrices se rendent compte que c'est un lieu qui est fragile et qui tient par l'énergie de membres. Et que plus on est de fous, plus on rit. Donc, les réunions ont lieu tous les mercredis, à partir de 19h, 20h. Voilà, vous pouvez vous rendre sur place, participer aux réunions et puis intégrer l'association et puis voilà, vivre des expériences exceptionnelles, parce que c'est ça que le lieu propose. C'est une autre façon. Nous, on a l'habitude de dire que on défend la poésie contre la marchandise et qu'on cherche un monde à vivre et non à consommer. Voilà.
Ce qui est une très belle définition d'ailleurs. En tous les cas, oui. Un projet qui est très intéressant et qui va peut-être à l'encontre, malheureusement, du monde ultra-libéral qui se développe.
Heureusement. Non, pas malheureusement. Qui va heureusement à l'encontre du monde libéral.
Oui, mais malheureusement, il y a un monde ultra-libéral qui se développe et qui continue à se développer. Tant mieux qu'il y ait des initiatives comme la Chapelle, justement, pour contrebalancer cet aspect-là.
Oui, ou en tous les cas, pour montrer ce qui est possible ici et maintenant. C'est-à-dire que on peut parler de projet, on peut parler de demain, et si demain c'était mieux, oui, effectivement, mais
demain se construit aujourd'hui.
Voilà, c'est ici et maintenant nous qui nous intéresse, et le lieu accueille comme ça au quotidien des nouvelles initiatives. En 2004, la chapelle a accueilli la première AMAP de la région, l'AMAP Casanova, et on suit depuis ça fait 13 ans maintenant, bientôt 14, que cette AMAP existe et qu'elle a essaimé partout dans Toulouse, qu'elle a été un gros pilier du réseau au tout début. Donc voilà, il y a plein d'expériences qui sont proposées sur le lieu. Et puis c'est aussi un lieu de formation pour les personnes qui sont dans l'association ou qui viennent aider, parce que il n'y a pas les experts qui savent et puis les autres qui regardent ou qui exécutent. Ce qui est intéressant à la chapelle, c'est que tout le monde met la main dans le cambouis, et s'il faut monter sur le toit pour remettre les tuiles, et puis à côté de ça monter sur scène pour lire un poème, et puis à côté de ça ranger des câbles pour que la salle soit vide pour accueillir un spectacle le lendemain, voilà, ça c'est le quotidien du lieu. Et il n'y a pas celui qui va nettoyer, celui qui va l'ouvrier entre guillemets, qui va travailler de ses mains pour entretenir le lieu, et puis l'intello qui va parler au micro. Ça n'a pas de sens. À la chapelle, c'est vraiment tout faire qui est intéressant. C'est pour ça que c'est un lieu qui est formateur. C'est un lieu initiatique pour ceux qui y vont, qui y restent. Il y a plein d'expériences à vivre.
Alors, tu parlais tout à l'heure, effectivement, de faire appel aussi aux bonnes volontés au niveau financement. Mais il faut rappeler peut-être que si des auditrices et des auditeurs de Ici Demain, d'Occitanie Première, sont intéressés, il y a une partie qui peut être déduite des impôts si nous payons des impôts.
Oui, alors oui, bien sûr.
Il faut le rappeler.
Pour tous les riches auditeurs d'Occitanie Première qui ont eu la joie d'avoir leur ISF complètement annulé par Emmanuel Macron, tout cet argent dont vous ne savez que faire, nous l'accueillons bien volontiers. Mais s'il y a parmi vous des électriciens, des plombiers, des couvreurs, des zingueurs, des peintres, des plâtriers, des je ne sais quoi, des gens qui bricolent à la maison et qui ont pas d'argent mais qui voudraient bien aider, ben n'hésitez pas à nous contacter. On fait régulièrement des week-end travaux, c'est complètement convivial. Il y en a qui font la bouffe pendant que d'autres travaillent, et puis on se retrouve comme ça et on avance, on défend le lieu. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui, donc c'est pour tout le monde.
Bon, et c'est tant mieux. Donc toi, ça fait quelques années que tu es
bientôt
là.
20 ans.
Ah oui. Là, donc ça pratiquement faire, voilà. Depuis les origines.
Non. Je suis arrivé moi après une histoire glorieuse, celle de Planète, celle de La Ville Habitée, qui a marqué la ville profondément. Moi, je suis arrivé après ces expériences-là. J'étais étudiant au Mirail en lettres modernes. Je faisais du théâtre dans une association, et c'est comme ça que j'ai débarqué sur le lieu. Et que je me suis vite intégré dans l'association. Donc, non, je suis pas là depuis les origines, mais effectivement, plus le temps passe, et ben au final, on se retourne et on se dit merde, putain, ça fait 20 ans en fait. Ouais, si, c'est ça, ça fait 20 ans. Bon, voilà, ça donne un coup de vieux quoi.
Et est-ce qu'il y a toujours du théâtre à la chapelle ?
Oui, bien sûr. Ben il y avait Nicolas Lambert. Il y a quelques mois, il y a toujours du théâtre, toujours des concerts, des conférences. Après, en ce moment, voilà, comme on accueille le collectif Autonomie, le lieu a une couleur qui est plus militante, sociale, moins artistique, comme il pouvait l'avoir il y a quelques années. Mais c'est la vie, c'est un lieu qui est vivant, qui bouge, qui est toujours en train de s'interroger. C'est surtout ça. C'est que c'est un lieu en mouvement où rien n'est fixé dans le marbre, si ce n'est le fait qu'on refuse des projets sexistes, racistes, homophobes, etc., xénophobes et toutes ces choses-là. Mais et qu'on veut que ça reste un lieu horizontal et bénévole. Mais hormis ces quelques points, tout est possible dans cet espace. Donc voilà, il y a vraiment une programmation très très variée. En octobre, on accueillait Canal Sud qui proposait un direct radio pendant 17h le 17 octobre, hein, en écho au 17 octobre 61, contre les violences policières. Ça fait la troisième année, je crois, qu'on les accueille pour cette initiative. Voilà, plein de choses comme ça. Combien de conférences autour des grands projets inutiles. Alors aujourd'hui, quand on voit que Notre-Dame-des-Landes a été arrêtée, voilà, c'est drôle de se retourner et d'avoir entendu parler de ce projet ici, il y a de nombreuses années, avec des gens qui expliquaient pourquoi il fallait que, et voir où ça aboutit. Bon, même si on peut se demander si ce n'est pas un enfumage de la part de Macron et qu'ils vont revenir par la fenêtre après avoir fermé la porte. Mais voilà, c'est... Quand Henrik Duran est venu à la chapelle, pour parler de son initiative, Henrik Duran, c'est ce Catalan qui a volé des banques espagnoles en profitant en fait justement du système capitaliste, de l'endettement. Il s'est rendu compte qu'à partir du moment où il s'endettait auprès d'une première banque, elle mettait 6 mois à déposer le dossier auprès de la Banque d'Espagne. Donc il s'est rendu compte qu'il avait 6 mois avant d'être interdit bancaire pour... mettre en place tout un tas de crédits, de prêts auprès de banques espagnoles qui vraiment fonctionnent là-dessus. Et donc, il a volé je ne sais plus combien, centaines de milliers d'euros. Il est aujourd'hui assigné à résidence en procès. Et il refuse de dire à qui il a donné l'argent. Et il montre une autre façon de faire, une autre façon de lutter aujourd'hui, voilà, juste à côté. Voilà, la chapelle, elle a accueilli des gens aussi incroyables que ça. Et elle a accueilli Charlie Bauer, qui a été le compagnon de route de Jacques Mesrine. Dans le film où il y a Vincent Cassel qui fait Mesrine, il apparaît d'ailleurs, enfin le je crois que c'est Richard Berry qui joue le rôle de Charlie Bauer, et voir ce mec venir à la chapelle parler des quartiers haute sécurité, qu'est-ce que c'est la prison, qu'est-ce que c'est l'enfermement, ben voilà, ça remet les idées en place, quoi, sur la réalité d'une société, et comment une société peut briser en fait les personnes incarcérées, au lieu de chercher à les réinsérer. Et voilà, c'est un lieu comme ça, où il y a plein de choses qui sont vécues.
Mais merci Yann Balade de nous avoir fait partager toutes ces initiatives de l'atelier idéal. Et puis donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons te retrouver la semaine prochaine, mais pour parler cette fois de la cave poésie.
C'est une autre histoire.
Et des lettres d'amour, mais c'est des histoires parallèles ou qui se rejoignent à un moment donné. Merci d'être venu jusqu'à nous, et au plaisir donc de t'y retrouver dès la semaine prochaine dans l'émission Ici Demain, que nous rediffuserons, ou soit demain matin, éventuellement c'est jouable. Allez, demain matin 8h pour les lève-tôt, et voilà, 8h Ici Demain, et je vous donne rendez-vous vendredi matin entre 10h et midi, et nous parlerons entre autres de Au Secours, oui, puisque l'eau c'est un bien commun, et qui pour l'instant est privatisé en tous les cas dans la région et dans la métropole. Pour le Toulousaine, bye bye, à la semaine prochaine. Merci Jean-Loup pour la réalisation et à très vite.